Mais on va lire aujourd'hui le psaume 139. Je vais vous rappeler ce qu'avait dit un pasteur africain. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'il avait dit ? J'ai vu des lèvres bouger, mais il n'a rien entendu. Si quelqu'un n'a pas de Bible, ben, qu'il s'asseye près d'un chrétien. Donc, venez à l'église avec votre Bible et suivez les lectures. Nous lisons le psaume 139. Au chef de cœur, psaume de David. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Ta parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Dans ce verset, nous avons lu que Dieu sait tout. Dans les versets qui suivent, nous allons lire que Dieu est présent partout. Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir loin de ta présence ? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Et maintenant, nous allons lire que c'est Dieu qui nous a fait. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la mer, de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter ? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. On va continuer la lecture. Avant de continuer, on va prier. Merci Seigneur de pouvoir encore ouvrir ta parole. Et nous te demandons d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles. Te demandons d'ouvrir nos cœurs et notre intelligence pour accueillir ce que tu veux nous dire. Amen. Avant de continuer, vous vous souvenez probablement qu'il n'y a pas longtemps, notre pasteur, à l'occasion de la présentation d'un enfant, il a lu ce psaume et il s'est arrêté là, à cet endroit-là. Il n'a pas lu les versets 19 et suivants. Cette année, au camp de jeunes et familles, pendant la méditation du matin, on a encore lu le psaume 139 et encore une fois, on s'est arrêté pile à cet endroit-là. Et pourquoi est-ce qu'on s'arrête là ? Eh bien, c'est parce que les versets qui suivent sont peut-être choquants, mais nous allons les lire, puisqu'ils sont dans la parole de Dieu. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leur projet criminel. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent? Ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent. Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Peut-être que vous avez une version un peu plus dure dans laquelle il dit « Je les hais, une parfaite haine. » Donc, si notre pasteur n'a pas lu ce verset-là, je n'y en veux pas. Je n'en veux pas non plus à je ne sais plus au frère qui s'est arrêté là, parce que j'ai fait la même chose plus d'une fois. Dans ma Bible, j'ai mis des repères à cet endroit-là pour que je ne commence pas à les lire et être dans la baraque. Parfois, je me suis déjà interdit, enfin, parfois, je n'ai tout simplement pas lu ce livre, ce psaume que j'avais envie de lire parce que ces versets-là m'embarrassent. Ces versets-là m'embarrassent. Et aussi parce que, voilà, c'est la parole de Dieu, et on a toujours peur de retrancher quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Mais ils sont là. Alors on va finir la lecture du psaume 139, les versets 23 et 24. Dont on a fait un chant et que nous chanterons pour terminer et qui est le numéro 78 pour Edwige dans les recueils de l'Église quand nous avons terminé la prédication. Les deux derniers versets. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, nous sommes d'accord, c'est un psaume magnifique. Les versets 19 à 22 m'embarrassent, je ne sais pas pour vous. C'est un psaume que nous avons lu il y a longtemps, je vais dire une trentaine d'années, avec quatre enfants, qui avait plus ou moins l'âge de Sarah, il y avait quatre enfants, des quatre, il n'y en a plus qu'un que nous voyons. Et nous avons lu ce psaume, et je leur avais demandé avant de lire qu'ils essayent de retenir quelque chose qui les avait frappés, qu'ils avaient apprécié dans ce psaume. Et la plus jeune d'entre elles, elle a dit, Dieu sait tout. Et je trouve que pour un enfant de 8 ans, elle avait bien compris, elle avait bien résumé, et si j'avais été son papa, eh bien j'aurais été fier de sa réponse. Donc dans les 6 premiers versets, nous avons lu que Dieu sait tout. On ne va pas parler tellement du début du psaume, parce qu'on a déjà entendu pas mal de prédications. Le Seigneur sait quand je m'assieds et quand je me lève. Nous aussi, quand quelqu'un se lève ou qui s'assied, ben, on le voit, on le sait. Mais ce que nous ne savons pas, c'est avec qui, ce que moi je ne sais pas, c'est avec qui vous vous asseyez. Et la même chose pour vous, hein, vous ne savez pas avec qui je m'assois. Mais quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu, c'est qu'il discerne nos pensées. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans mes pensées et moi je ne sais pas ce qu'il y a dans les vôtres. Le Seigneur sait quand je marche et quand je me couche. Ça aussi, c'est quelque chose que tout le monde peut voir et savoir. Mais Dieu seul sait quand je me lève où je vais aller, ce que je vais faire, avec qui je vais rester, ce que je ne ferai pas et que j'aurais peut-être dû faire, ou bien ce que j'ai fait et que je n'aurais pas dû faire. Ça, personne ne le sait, à part le Seigneur. Parce que toutes les voies sont devant le Seigneur. Mais nous, nous ne connaissons pas toutes les voies, nous connaissons à peine la nôtre. Quand quelqu'un parle, eh bien nous l'entendons, comme vous m'entendez. Mais seul le Seigneur sait ce que quelqu'un va dire, même avant qu'il ouvre la bouche. Et nous pouvons dire, nous pouvons prendre pour nous la conclusion du psalmiste qui dit « C'est une science tellement merveilleuse que je suis incapable de la saisir, je suis incapable de la comprendre. » Donc devant un tel Dieu qui sait tout, je ne peux que m'incliner et m'adorer. Et c'est aussi ce que nous sommes venus faire ce matin. Et puis nous avons lu, comme je vous l'ai dit, que Dieu est présent partout. Il me voit partout. Et le fait que Dieu est partout, qu'il me voit partout, quel sentiment est-ce que ça peut m'inspirer? Est-ce que ça peut me faire peur? Ou bien est-ce que ça peut me rassurer? Est-ce que ça me gêne? Est-ce que ça pourrait me gêner que le Seigneur me voit partout où je suis? Ou bien est-ce que cela m'apaise de savoir que le Seigneur sait où je suis? La réponse peut être différente. Et la réponse que l'on donne dépendra de la façon dont nous marchons avec le Seigneur. Et bien sûr, si nous marchons dans l'obéissance, eh bien, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à avoir de gêne, parce que sa présence nous rassure, sa présence nous apaise, nous apaise. Mais si nous vivons dans le péché, nous avons raison d'avoir peur. Nous avons raison d'éprouver de la gêne. Et si nous avons peur, et si nous éprouvons de la gêne, ça veut dire que la conscience, elle travaille encore. Mais si c'est péché et qu'on a l'impression que tout va bien, alors il y a danger et il y a intérêt à se réveiller. Je vais aller chercher mon bouteille d'eau. Voilà, on va continuer. Et puis, dans les versets 13 à 18, ben, nous lisons que c'est Dieu qui nous a créés, et c'est vraiment des textes d'une très grande beauté. Il nous a tissés. Il nous a tissés. On peut s'imaginer fil par fil. Fil par fil. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il me voyait quand je n'étais qu'une masse informe. Et il me verra jusqu'au dernier jour de ma vie, puisque dans son livre, il a inscrit tous les jours qui me sont destinés. Et Dieu ne nous a pas créés pour nous lancer comme ça dans le vide en disant « Débrouille-toi ». Dieu nous a créés et nous avons vu qu'il nous entoure par devant, par derrière, qu'il est au-dessus de nous, et qu'il pose sa main sur nous. Tu poses ta main sur moi. Et nous pouvons dire ici aussi, oui Seigneur, tes pensées sont vraiment impénétrables. Alors nous arrivons au verset 19 à 22. Est-ce que ça vous choque ces versets-là? Ou bien est-ce que je suis le seul à être choqué? Personne. Tout le monde dit ça gentiment. Dans la deuxième épître de Pierre, l'apôtre Pierre, il avait dit, en parlant des lettres de l'apôtre Paul, il dit, il se trouve dans les lettres de notre bien-aimé frère Paul des choses difficiles à comprendre. Peut-être qu'on pourrait dire la même chose de ce passage. Avant les vacances, vous savez, ceux qui étaient ici, Jacques a lu un psaume qui a deux numéros en moins. C'était le psaume 137. Et Jacques va croire que je l'ai bien vu, mais je ne lui en veux pas. Mais au psaume 137 aussi, il s'est arrêté à un endroit bien précis. Il s'est arrêté au verset 6, et après il y a encore quelques versets. Des versets dans lesquels il est dit, Éternel, souviens-toi des Édomites. Le jour de la prise de Jérusalem, il disait, rasez-la, rasez-la jusqu'aux fondations. Toi, fille de Babylone, tu seras dévastée. Heureux celui qui te rendra le mal que tu nous as fait. Et le verset 9, heureux celui qui prendra tes enfants pour les écraser contre un rocher. Difficile pour moi. Donc il n'y a pas que dans les lettres de Paul qu'il y a des choses difficiles à comprendre. Il y a des choses difficiles à comprendre dans les psaumes aussi. L'Éternel est mon berger, c'est bien gentil et tout, et c'est vrai, mais ça c'est la parole de Dieu aussi. Et je comprends qu'on n'en parle pas. Je comprends qu'on n'en parle pas parce que ce sont des versets embarrassants. Mais à propos des versets 19 à 22, est-ce qu'on peut déduire de ces versets-là que nous pouvons haïr nos ennemis? Est-ce que nous pouvons déduire de ces versets-là que nous pouvons haïr nos ennemis? Comme il était écrit dans l'entête, c'est un psaume de David. Et nous savons, nous qui venons ici tous les dimanches, que David a eu un ennemi implacable dans sa vie. Un ennemi qu'il a pourchassé sans relâche. Et à deux reprises, au moins à deux reprises, il a eu l'occasion de tuer celui qui le pourchassait d'une façon aussi injuste et aussi implacable. David, dans ces moments-là, se sentait, il dit, dans le livre de Samuel, dans les chapitres 24 et dans les chapitres 26 de 1 Samuel, il dit qu'il se sentait comme une perdrix pourchassée. Il se sentait comme un chien mort et comme une puce, tellement il était harcelé par le roi Saül. À deux occasions, il y a eu deux occasions au moins où David aurait pu tuer Saül. La première fois, lorsque Saül est entré pour satisfaire un besoin naturel dans une grotte. Et il ne savait pas que David et ses hommes étaient eux aussi dans la grotte, au fond de la grotte. Et les soldats de David lui disaient, si tu ne vois pas que le Seigneur le livre entre tes mains, tue-le, c'est l'occasion. Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel, sur celui que l'Éternel a choisi. Et David a coupé un pan du manteau du roi Saül. Et puis quand ils sont sortis, quand les deux groupes sont sortis, quand David et sa troupe est sortie de la grotte et que le roi Saül est sorti de la grotte lui aussi, David a appelé Saül en lui montrant le morceau de manteau qu'il avait coupé, en lui disant qu'il pouvait le tuer, mais qu'il l'a épargné. David n'avait pas de haine contre celui qui voulait sa perte. Une deuxième occasion, le roi Saül dormait avec ses soldats, apparemment à la Belle Étoile. Son général Abner était à côté de lui. Ses soldats l'entouraient. David et sa troupe n'étaient pas loin. Et encore une fois, les soldats lui ont dit, « Regarde, c'est l'occasion. Le Seigneur te le donne. C'est l'occasion de le tuer. » Alors David a monté une opération commando. Il a demandé un volontaire pour l'accompagner, pour s'infiltrer dans le camp de Saül et de ses soldats. Et le Seigneur, il est écrit que le Seigneur les avait fait tomber dans un sommeil profond. Et David, et là encore, son compagnon Abishai lui disait, « Si tu ne veux pas le tuer, je sais bien que tu ne veux pas le tuer, mais moi je vais le tuer à ta place. » David a dit non. Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel, et toi non plus. Il lui a seulement pris la lance qui était plantée près de la tête de Saül et sa cruche d'eau. Le matin, quand la troupe de Saül s'est réveillée, David l'a à nouveau interpellé. Il lui a montré la lance et la cruche en lui disant, « Je pouvais te tuer, mais je n'ai pas voulu porter la main sur celui que l'Éternel a choisi. » Et peu de temps après, Saül et son fils Jonathan ont été tués dans une guerre contre les Philistins sur le mont Gilboa. Et à cette occasion, vous pouvez lire dans le deuxième livre de Samuel, dans le premier chapitre, l'oraison funèbre que David a composée sur Saül et Jonathan. Et vous n'y trouverez aucune haine, vous n'y trouverez aucune rancune, vous n'y trouverez aucun désir de vengeance. Donc, la question c'était, est-ce que ces versets nous permettent de haïr quelqu'un, de haïr nos ennemis? Eh bien, non. Ces versets ne nous disent pas qu'on peut haïr nos ennemis. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 25, dans le verset 21, le roi Salomon a écrit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui de l'eau à boire. » Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, au chapitre 12, il cite les paroles de Proverbe 25-21. Maintenant, il faut quand même être prudent avec les ennemis. Il faut les aimer, mais c'est autre chose de les aimer et de faire copain-copain avec l'ennemi. Parce que l'ennemi peut déteindre sur nous, sur notre comportement. Il n'y a pas ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, de commandements qui nous permettent de haïr nos ennemis. C'est un commandement que les docteurs de la loi ont ajouté et que le Seigneur Jésus a dénoncé en Matthieu 5, verset 43. Mais il n'y a pas de commandement. Il n'y a pas d'autorisation à haïr ses ennemis. Et la parole de Dieu est très claire. Dans le livre du Lévitique, il est dit que tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Tu ne te vengeras pas sur ton frère. Tu ne garderas pas rancune contre ton frère. Et la fin du verset dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset qui a été proclamé dans l'Ancien Testament, qui a été repris à plusieurs reprises par le Seigneur Jésus, et qui est repris à plusieurs endroits par les apôtres dans leurs épîtres. Peut-être que quelqu'un dirait, ok, ça, pour le Nouveau Testament, c'est quelque chose qu'on pouvait faire, haïr ses ennemis. C'est vrai qu'il y a des paroles dures comme ça. Il faut se souvenir aussi que dans le Nouveau Testament, il y a des paroles dures. Des paroles dures qui viennent de la bouche de celui qui a écrit 1 Corinthiens 13, l'amour, l'amour. Mais à deux reprises, l'apôtre Paul a prononcé un anathème. Ça veut dire une malédiction. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez entendu de moi, écrit-il, qu'il soit maudit, il le dit deux fois. Maintenant, il ne faut pas prendre le prétexte que, ah, puisque l'apôtre Paul a commencé à lancer des anathèmes sur quelqu'un. L'apôtre Paul l'a fait parce qu'il y avait des gens qui détournaient les croyants du vrai évangile et qui les conduisaient à la perte. Et c'est contre ces personnes-là qui égaraient les chrétiens que l'apôtre Paul a prononcé ces anathèmes. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons aussi de la part de croyants dont on ne peut pas douter de la foi, de la fidélité. Au chapitre 6 de l'Apocalypse, il est parlé des âmes, des martyrs qui attendent et qui demandent au Seigneur, jusqu'à quand est-ce que tu vas nous faire attendre pour venger notre sang qui a été répandu à cause de notre témoignage, à cause de notre fidélité. Donc, l'apôtre Paul a eu des paroles dures, il a lancé des anathèmes, mais il s'explique par le danger que certaines personnes faisaient courir à certains aux croyants. Ayant dit tout cela, eh bien, nous n'avons pas encore clarifié les versets 19 à 22 dans lesquels il est écrit que je les haïs, je les hais d'une parfaite haine et je les déteste et ils me dégoûtent. Alors c'est quoi, finalement c'est quoi? Ces ennemis que David hait d'une parfaite haine dans le verset 22. C'est quoi qui inspire à David au verset 23 un dégoût aussi profond? Est-ce que, par exemple, nous pouvons appliquer ces versets à nos mauvaises pensées? Est-ce que nous ne pourrions pas appliquer ces versets à nos mauvaises pensées, aux pensées charnelles? Ce matin, en faisant ma lecture, j'ai lu dans le psaume 97 que, au verset 10, psaume 97, verset 10, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. » Et dans la version 21, on dit la même chose, mais sera-t-on un peu adouci ? Ayez le mal en horreur. Et c'est aussi un texte que l'apôtre Paul reprend dans Romains 12. Alors, qu'est-ce que le chrétien est appelé à haïr ? D'une parfaite haine. Qu'est-ce qui, aux chrétiens, non seulement peut, mais doit inspirer un si profond dégoût? Est-ce que le chrétien est appelé à haïr le mal qui est en lui? Est-ce que le chrétien est appelé à haïr les convoitises qui peuvent naître dans son cœur? Est-ce que le chrétien est invité à haïr les pulsions de la vieille nature, les pulsions de la chair, les désirs de l'ancienne nature qui vit encore en nous? Et ici, je dois faire une parenthèse et vous faire une confession. J'ai un grand problème avec ça. Bien que nous soyons fidèlement enseignés sur le sujet, notre pasteur nous dit, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, que nous sommes morts au péché. Romains 6, 2. C'est un constat. Et dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul dit, si vous êtes mort avec Christ, c'est encore un constat. Et puis, au chapitre suivant, chapitre 3, verset 3, vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ. Ce sont des constats que l'apôtre Paul répète plusieurs fois. Que j'entends, Jacques, de toi, et je continue à avoir un problème avec ça. Parce que moi, je ne vois pas que le vieil homme, il est mort. Moi, je vois qu'il est toujours vivant. Je vois qu'il est toujours vivant. Je ne sais pas si c'était un problème pour l'apôtre Paul aussi. Parce qu'il dit qu'il traite son corps durement. S'il était mort, est-ce qu'il devrait encore le traiter? Donc ça reste un grand problème pour moi. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc il peut y avoir en nous, et il y a peut-être en nous, des parties qui refusent de se soumettre au Seigneur. Et ce sont ces parties-là, les insoumises, que nous sommes appelés à haïr. Il y a certainement en nous des choses qui donnent la nausée au Seigneur. Par exemple, un cœur partagé. Un cœur à moitié au Seigneur, un cœur à moitié dans le monde. Par exemple, encore une bouche qui honore le Seigneur, mais dont le cœur est infidèle. Voilà ce qui peut et ce qui doit nous inspirer du dégoût. Alors la solution, que faire ? Que faire ? Qu'est-ce qu'il a fait David ? Alors David, il a dit, examine-moi Seigneur, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous rappelez de ce qu'elle avait, vous souvenez de la réponse de la petite fille, après avoir lu le psaume 139. Elle avait dit, Dieu sait tout. Donc c'est à celui qui sait tout qu'il faut s'adresser pour régler ce problème. Et c'est ce que David a fait. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et ici, j'ai eu comme l'impression que David prenait rendez-vous chez le médecin, chez un médecin divin, chez le divin médecin. Un rendez-vous chez le divin médecin pour faire un check-up. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire tout le monde a déjà entendu parler du scanner, hein. Mais pour ne pas dire de bêtises, j'ai regardé dans le dictionnaire. Donc le scanner, premièrement le mot scanner, ça vient d'un mot anglais qui signifie explorer par balayage pour obtenir une image. Ça veut aussi dire scruter. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire scruter. Alors voilà, le dictionnaire dit que scruter, c'est examiner avec une grande attention pour découvrir ce qui est caché. Examiner avec une grande attention pour découvrir ce qui est caché. Ça veut aussi dire fouiller. Ça veut aussi dire sonder. Et sonder, c'est le mot que David utilise. Sonde-moi, ô Dieu. Fouille dans ma vie. Et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde dans mes pensées, parce qu'il y a peut-être du bazar dans mes pensées. Et le Seigneur qui sait tout, il peut voir des choses que le scanner ne sait pas voir. Un check-up, quand on fait un bilan de santé, c'est ça, hein? Quand on fait un bilan de santé, eh bien, on regarde tout. Et il n'y a pas que quand on fait un bilan de santé qu'on regarde tout. Quand on fait les comptes, le bilan en fin d'année, on regarde tout. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur, etc., etc. Alors le Seigneur, David, il demande au Seigneur de le passer au scanner. Inspection totale. Depuis en haut jusqu'en bas. À l'extérieur et à l'intérieur. Alors on va juste faire passer le scanner de haut en bas. Et on ne parlera pas de tout, bien sûr, hein. Mais si on commence par le fond, qu'est-ce qu'il y a là, en haut, dans le plafond de notre tête? Eh bien, il y a nos pensées. Et qu'est-ce qui peut se passer dans le monde de nos pensées? Vous ne savez pas les miennes, je ne sais pas les vôtres, mais nous avons lu que le Seigneur pénètre nos pensées. Un peu plus bas, il y a les oreilles. Qu'est-ce qui entre dedans? Qu'est-ce qu'on laisse entrer dedans? Et puis, oui, il y a les yeux. qu'est-ce qu'on laisse entrer dans nos yeux? Et puis, enfin, le trou, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui sort du trou? Il y a la langue. L'apôtre Jacques dit qu'elle est pleine de venin. C'est un membre qui est plein de venin. Là, quelque part, je ne sais pas où, il y a des cordes vocales. À quoi les utilisons-nous? Nous les utilisons pour louer qui, pour louer quoi? Et puis il y a ici, la cage, avec un pilier devant, un pilier derrière et des barreaux qui protègent. Comment est-ce qu'on dit? Les organes vitaux. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Dans nos poumons? Qu'est-ce qu'on laisse entrer? Comme mauvaise chose. Et puis on arrive en dessous de la ceinture. On va passer sur le ventre. On arrive en dessous de la ceinture. On arrive à la sexualité. Qui dira combien et quel ravage l'infidélité conjugale a causé? Qui dira combien de ravages l'immoralité a causé et causera encore? Les serviteurs de Dieu de terrain que nous avons rencontrés en vacances nous ont parlé de l'addiction aux écrans. Il y a eu un atelier consacré à l'addiction aux écrans. Les grands écrans qu'on a sur notre bureau et les petits qu'on a dans notre poche, sur lesquels on peut regarder quand on veut, tout ce qu'on veut. Et malheureusement, souvent, des sites de pornographie. Et ces serviteurs nous ont dit combien de chrétiens ils ont rencontrés qui s'étaient permis. Et quels dégâts ils avaient provoqué dans la conscience, quel sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que ça avait produit comme dégâts dans la vie spirituelle? On n'a plus envie de lire sa Bible. On ne sait plus prier parce qu'on se sent sale. Parce qu'on a touché à ce que le Seigneur interdit. Et si on descend, il y a les genoux. Et si on continue, il y a les pieds. Alors on va rapidement refaire le tour de ce qui vient d'être dit. On a parlé des pensées. Et c'est ici que la concordance est vraiment une grande aide. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur toutes les choses que je viens de mentionner. Mais pour les pensées, l'apôtre Paul dit que ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées, que ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. À propos des oreilles, la Bible dit que la Bible parle de certaines personnes qui ferment leurs oreilles pour ne pas entendre ce que Dieu dit. Et l'apôtre Paul l'a dit à la fin du livre des Actes, à propos des Juifs qu'il voulait convaincre, qu'il voulait amener au salut, mais qui fermaient, qui endurcissaient leurs oreilles. La bouche Est-ce qu'elle prononce des bénis? Est-ce qu'elle prononce une bénédiction? Est-ce qu'elle encourage les yeux? L'apôtre Paul priait que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Mais il y a aussi des yeux, l'apôtre Pierre dit qu'il y a aussi des yeux qui sont pleins d'adultère. Les cordes vocales, nous en avons parlé. Ici, il y a le cœur, nos affections, dans le livre des Proverbes. Il y a aussi un chant qui a été composé avec ce verset, mais je ne saurais plus chanter. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que sortent les sources de la vie. Les genoux. Il est dit que Daniel, trois fois par jour, se mettait à genoux dans la direction de Jérusalem. Le Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsémané, à genoux. Demandant que, si c'est possible, la coupe s'éloigne de lui. L'apôtre Paul, je fléchis les genoux. Il priait pour toutes les églises. Fortifiez dans l'épître aux Hébreux, fortifiez vos genoux affaiblis. Pour les pieds, encore dans l'épître aux Hébreux, suivez avec vos pieds des voies droites. Qu'est-ce que nous faisons avec nos genoux? Où est-ce que nos pieds nous conduisent? Le scanner, il travaille, il utilise des rayons X pour... tout ça, c'est écrit dans le dictionnaire. Hein. Le scanner, il utilise des rayons X. Mais contrairement à une radiographie, il utilise de fortes doses de rayons X. C'est pour ça qu'il n'est pas bon de passer trop souvent de scanner. Donc, passer trop souvent le scanner, ça peut être aussi un danger. Par contre, la parole de Dieu, le miroir que le Seigneur nous a donné, lui, il est dit que c'est la santé pour tes os, c'est la guérison pour ton cœur. Et de elle, de la parole de Dieu, on peut en consommer sans modération. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu sais ce qui habite en nous. Tu sais ce qui habite en moi. Tu sais, Seigneur, tu connais nos combats. Tu sais de quoi nous ne savons pas nous débarrasser. Tu connais nos luttes, tu connais nos chutes et nos rechutes. Seigneur, viens-nous en aide pour avoir la victoire sur le mal qui s'attache si facilement à nous et qui te déshonore. Seigneur, aide-nous à haïr ce que tu fais. Aide-nous à avoir du dégoût pour ce qui te dégoûte. Et que nous soyons dans le monde comme des flambeaux qui portent ta lumière à ta gloire. Seigneur, nous te le demandons à cause de l'amour que tu as pour nous. Amen. Dans le recueil de l'Église, le numéro 78. Sonde-moi, ô Dieu, on va se lever, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la bonne voie.